Voici votre émission Antiquissimo.
Dédiée, comme son nom l'indique,
à l'Antiquité.
Archéologie.
Reconstitution.
Histoire.
Fiction.
Livre. Et film.
L'Antiquité avec un grand A.
L'Antiquité vivante.
L'Antiquité polymorphe qui nous unit tous.
Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Voici que Cécile Carrier revient en deuxième semaine.
Ah, je fais les prolongations maintenant.
Prolongation, car la dernière fois, bah, évidemment, nous n'avions absolument pas bouclé la boucle. Il reste énormément de choses pour parler de votre parcours et de la manière dont, en même temps que vous, vous avez évolué dans ce parcours, et bah, autour de vous aussi, l'analyse de la statuaire, la mise en place de l'iconographie, tout ça a évolué aussi.
Oui. En fait, j'ai eu... Ah, bonjour à tous d'abord, quand même. Oui, les choses... En fait, je suis arrivée à un moment où l'étude de la sculpture n'était pas tellement en vogue. Il y avait un peu un champ libre, comme ça. Et à la fin de ma quatrième année, il faut bien avouer que étudier la sculpture pour la sculpture, c'était assez insatisfaisant. Et puis, je ne trouvais pas de directeur de recherche, en fait. Et j'ai eu la chance de rencontrer un monsieur qui avait été directeur de l'école française de Rome et qui revenait d'Italie avec des nouvelles idées, des nouvelles pistes de recherche intégrant la sculpture. Et donc notre rencontre, qui a été totalement fortuite d'ailleurs, hein, parce que je ne le connaissais pas, il ne me connaissait pas, ça a été simplement pour une question de signature, de papier administratif qu'on s'est rencontrés.
Comme quoi, quand les dieux veulent.
Voilà, voilà, c'est ça. Et donc ce monsieur qui s'appelle Pierre Gros, qui était directeur à l'époque de l'UFR, en signant mon papier administratif, me dit « Mais vous étudiez quoi ?» Et puis moi, je lui dis « Bah, la sculpture, et puis j'aimerais bien continuer. » Mais je ne trouve pas de directeur de recherche. Celui qui m'avait suivi en maîtrise partait à la retraite, donc voilà. Et il me regarde, puis il ne me connaissait pas non plus. Il me dit « Ah, votre maîtrise, c'est quoi ?» etc. Bon, on discute, il me dit « Ah, je vous donne un rendez-vous, il faut qu'on en discute. » Bon. Alors, quelques jours plus tard, on rendez-vous, et puis je lui explique ce que j'avais fait. Je lui disais ben voilà, que mon insatisfaction, et puis je ne savais pas trop par où partir pour que ce sujet devienne un vrai sujet, quoi. Bon. Et il me dit, ben, en fait, voilà, en Italie, et puis aussi quelques Allemands, depuis quelques années, développent un travail sur la contextualisation de la statuaire, notamment, mais pas que, aussi de la sculpture en relief, dans les monuments. Dans les lieux où on suppose qu'ils étaient exposés. Et en France, c'est vrai qu'à ce moment-là, il n'y avait pas vraiment ce genre de recherche. Il dit, si ça vous tente, on pourrait essayer. Et moi, alors là, ça a fait vraiment le flash, quoi. Je me suis dit, mais oui, c'est ça qu'il faut faire, quoi. C'est ça que j'ai envie de faire, surtout. Et c'est ça qu'il faut faire. Et donc, pour l'année qui précède la thèse, hein, puisqu'entre ce qu'on appelait la maîtrise et la thèse, il y a une année de préparatoire pendant laquelle vous construisez, enfin, vous exploitez un petit peu votre sujet pour voir s'il est réalisable et s'il y a une portée sur plusieurs années, parce que vous êtes censé en fait lancer votre sujet de recherche pour pratiquement votre vie de chercheur. Donc, il faut voir quand même si les sujets
tiennent
la route.
Et donc, ça, c'est la cinquième année.
Et donc, c'est pendant cette année-là, j'ai pris quelques sites de Narbonnaise et j'ai essayé de voir si on pouvait, effectivement, à partir de la documentation, si on pouvait trouver les lieux de provenance, enfin, les lieux de découverte, et si ces lieux de découverte des objets pouvaient correspondre à des lieux d'exposition. Donc j'ai fait quelques sites privés, enfin dans des maisons, etc., et publics, dans des monuments, pour voir ce qui pouvait fonctionner. Et c'est vrai qu'à l'époque, ce que j'avais en Gaule Narbonnaise, à ce moment-là, je dis bien à ce moment-là, et c'est avéré en fin d'année quand j'ai soutenu, c'était quand même plus les monuments publics qui avaient la cote, on va dire, et qui correspondait beaucoup à ce qui se faisait en Italie. Et aussi, mon directeur, qui évidemment, c'est un chercheur plus qu'aguerri, hein, parce que bon, c'est vraiment un monsieur qui a un intellect particulier. Enfin, je veux dire, voilà, on est vraiment dans le haut du panier. Je pense qu'il a vu tout de suite la possibilité de construire, enfin de reconstruire des programmes iconographiques, c'est-à-dire vraiment de retrouver les programmes que les commanditaires avaient voulu mettre en place dans ces monuments publics. Donc moi, à ce moment-là, j'étais quand même encore jeune, toute jeune, j'avais pas, peut-être pas autant cette vue à long terme, mais je pense que mon directeur, lui, avait bien compris la richesse du sujet. Et donc on a démarré comme ça, et c'est vrai qu'à l'époque, c'était quand même assez novateur. Enfin, en même temps, c'est un peu le but d'un sujet de thèse en même temps.
Voilà, c'est ça.
J'allais vous dire, c'est pas exceptionnel.
C'est
quoi,
comme ça que les choses avancent.
Mais
parce
voilà,
que,
exactement. Voilà. Oui, oui. Et là, ça vous donne vraiment, après, ça vous donne un souffle pour vos recherches qui est énorme. Parce que, évidemment, de la statuaire, de la sculpture, tout d'un coup, c'est un monde entier. C'est-à-dire, c'est toute la civilisation romaine qui s'ouvre à vous. C'est plus la sculpture pour la sculpture ou la statuaire voilà. pour la statuaire, c'est tout. Il faut étudier les bâtiments, l'ordonnancement des bâtiments, de l'objet par rapport à l'architecture, mais aussi le bâtiment dans la ville, c'est-à-dire par rapport aux autres bâtiments, puisque les bâtiments se répondent, ils ont des fonctions parfois complémentaires, et comment les décors de l'un et les décors de l'autre peuvent éventuellement se répondre. Et donc, c'est toute une ville, qui, toute une urbanisation, toute une architecture qu'il faut intégrer.
Oui, et puis il faut pouvoir comparer à d'autres choses.
Ah ben,
que,
bien
voilà,
sûr, aux autres arrêt. Sites. Oui. Bon, il y avait beaucoup de sites italiques, mais aussi en Espagne aussi. Les Espagnols avaient commencé aussi à faire pas mal de recherches. Donc là, on commençait aussi... en fait, c'est toute une émulation qui s'est mise en route.
Et donc, vous avez abouti à analyser quantité d'œuvres et...
Et oui, en fait, on étudie beaucoup pour finalement extraire plus grand-chose à la fin. En fait, il y a un dégraissement qui est assez terrible.
Oui, en même temps, vous arrivez à quelque chose qui est un décodage des couleurs, des styles.
Oui, de tout, mais aussi des fonctions, oui. des fonctions et des significations. Et c'est là aussi où je me suis rendu compte qu'une statue devait être entièrement décodée. On a parlé oui. souvent des codes vestimentaires, oui. mais il n'y a pas que ça.
Les coiffures, les chaussures,
il y a les objets tenus dans la main. Il y a aussi la théâtralisation, c'est-à-dire qu'en fait, les statues ont un mouvement ou pas. D'ailleurs, les mouvements des bras, la position des bras, ce qui est tenu dans les mains, il y a une théâtralisation, c'est-à-dire qu'il faut étudier le corps face à son spectateur. Est-ce que la figure va être ouverte, fermée, accueillante, ou au contraire, dans une dignité un peu hautaine, un peu dans ce qu'on appelle l'auctoritas qui démontre
oui,
l'autorité.
Quel rapport on veut qu'elle ait avec ceux qui la regardent.
Exactement. Voilà. Donc là, c'est tout un apprentissage à faire.
Alors, dans toutes les œuvres, évidemment, on ne saurait ici les donner toutes celles que vous avez travaillées, toutes celles qui vous ont plu. On va essayer quand même de faire une sorte de musée imaginaire.
De musée imaginaire, oui.
et de dresser tout ce qui a pu vous... Alors, encore une fois, on ne fera qu'effleurer le sujet.
Bien sûr.
Mais vous aviez évoqué des idoles cycladiques qui
oui,
vous avaient fascinées.
Oui, ça, pour moi, ça a été un choc artistique parce que c'était des objets que je ne connaissais pas quand je suis arrivée en histoire de l'art. Et ça m'a fait comprendre beaucoup de choses sur l'art moderne, puisque en fait, au 19e siècle, on commence à découvrir à redécouvrir toutes ces œuvres, et elles ont beaucoup influencé l'art moderne et la fin de l'art moderne, le début de l'art contemporain, avec la déstructuration des formes classiques Renaissance que nous on connaissait surtout. Et j'avoue que ça a été un choc pour moi visuel et un déclic de passion aussi, hein, parce que c'est quand même particulier. Ce sont des formes qui sont plus suggestives parce qu'elles sont très géométriques. Le corps est vraiment très succinct. C'est presque pas un corps. Il y a certaines sculptures qu'on appelle les femmes violons,
oui.
parce que le corps ressemble effectivement à un violon. Il faut aller au-delà. Enfin, il faut aller dans son imaginaire, ancestral, là où on... Un peu un art brut, on va dire, en fait, quelque part.
Et alors, j'ai sous les yeux, parce qu'on a, pour préparer l'émission, évoqué quelques œuvres. Effectivement, j'ai sous les yeux cette Corée de Chios,
oui.
Qui est effectivement tout à fait épurée
oui.
et qui s'impose à nous.
Oui, mais qui commence quand même à être très sophistiquée dans son vêtement. Donc là, on est déjà dans un art qui est déjà beaucoup plus... qui est anthropomorphisé, c'est-à-dire que là, elle a une tête, bras, jambes, même si c'est peut-être pas tout à fait l'anatomie réaliste, mais on commence quand même à avoir une forme. Donc on est déjà dans l'après art cycladique, puisqu'il y a eu un grand hiatus entre l'art cycladique et le premier art géométrique. Il y a eu un grand hiatus pendant lequel toute forme figurée a disparu. Alors, on n'a pas toutes les explications historiquement.
Bien sûr. On n'a pas les documents d'accompagnement.
Non, c'est ça. On pense qu'il y a eu des grands chamboulements, probablement politiques, mais aussi climatiques, peut-être aussi. Enfin, il y a eu certainement beaucoup de choses qui se sont passées. Et donc, là, cette Corée, enfin, toutes les corails hein, qu'on, oui. et les corails qui apparaissent avec notamment la triade d'Apollon, qui est une des premières sculpture aussi qui arrive après ce grand hiatus où il se passe plus rien, enfin il se passe plus rien au point de vue art sculpté, on a quand même des corps qui commencent à ressembler à des corps humains quand même malgré tout. Et mais ce qui m'intéressait dans cette corail, c'est d'abord le maniérisme du vêtement, puisqu'on a parlé longuement du vêtement, où on voit le vêtement qui commence à se déstructurer, qui n'est pas une espèce de chose qui est un tronc
uniforme,
à peine. Là, on commence à avoir un vêtement qui va commencer à bouger.
Il y a du plissé partout.
Et puis, elle commence à tenir son plissé dans les mains. C'est-à-dire que le sculpteur commence à faire jouer la personne avec son vêtement. Donc, il l'anime d'une vie.
Oui.
Et puis, autre élément qui a été aussi pour moi un choc esthétique, c'est la couleur, puisque celle-ci, elle a encore des restes de couleurs. Ses vêtements étaient entièrement ornementés et colorés.
Oui, et même quand cette couleur a disparu, il y a des traces, évidemment.
Oui.
Elle semble briller, quoi. Elle semble...
Et c'est une œuvre assez emblématique, je pense, pour comprendre ce qu'était l'art grec, en fait.
Et alors, on a des nuances dans la chevelure, pareillement.
Oui, oui, tout à fait.
Et ce qui marque au plus haut point, c'est son visage, c'est ce fameux...
Oui, avec ce petit sourire, c'est presque un rictus, qui était aussi bien pour les hommes que pour les femmes, et qui disparaît par la suite avec l'art classique, et surtout le préclassicisme, où là, les figures deviennent sévères, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle la période sévère, où là, les sourires disparaissent pour avoir une expression totalement neutre de la divinité. Mais en même temps, les corails et les corails, ce sont des personnages qui accompagnent, ce sont des compagnons des dieux, ce ne sont pas des divinités, donc ils peuvent très bien sourire, c'est pas... Voilà.
Alors c'est peut-être pour ça que une autre œuvre que j'ai sous les yeux grâce à vous, le bronze appelé l'Apollon de Piombino.
Oui, de son
lieu
de découverte.
Lui c'est un dieu là. Hein,
alors là c'est Apollon et là il est en fait c'est toujours. Alors là on est plus dans de l'art sévère, un préclassicisme, mais qui garde encore ses formes de l'art archaïque. Et alors ce qui m'intéressait dans cet Apollon de Piombino, c'est qu'il est en bronze et il a de l'ornementation en cuivre, c'est-à-dire rouge, pour les lèvres et pour les tétons des seins. Et là aussi, c'était pour introduire cette notion de couleur qu'on oublie beaucoup, à savoir que les œuvres, déjà à l'époque grecque, étaient ornementées, colorées. Donc pas que les marbres, mais aussi les bronzes. En fait, ce qu'il faut imaginer, en fait, comme art, c'est un art baroque, en fait.
Oui.
En couleur. Mmh. Donc, les bronzes, il y avait des bronzes dorés. Bon, il y avait des bronzes corinthiens qui étaient plutôt sombres. Mais les bronzes classiques, c'était des bronzes dorés qui brillaient. Donc, sur lesquels on mettait donc, du cuivre rouge pour les lèvres, pour les tétons. Et puis, on incrustait des yeux en couleur. Donc, il faut imaginer ça comme ça. Et les attributs tenus par les personnages pouvaient être colorés également.
Oui, parce qu'il semble avoir tenu aussi quelque chose dans ses mains.
Oui, oui, oui. Alors là, ça va être compliqué
vides,
de restituer.
Là, voilà, ouais. C'est ça. Donc, on ne va pas commencer à s'attarder là-dessus. Mais c'est à la fois une harmonie parfaite et en même temps des petits bras qui me semblent plus grêles que le reste.
C'est une impression parce que le torse est très développé, je pense.
Donc là, on était dans l'art grec, enfin pour faire en gros. D'un côté, une œuvre qu'on trouve en Grèce, à Athènes.
Piombino, l'Apollon, il est au Louvre.
Mais la Corée de Chios,
oui, elle est à Athènes.
Oui,
si je me souviens bien.
Trouve,
oui, à Athènes,
voilà.
Oui, tout à fait.
Donc c'est déjà pas mal. Hein. Nous avons alors déjà une femme, un homme.
Oui, oui, je ne suis pas sectaire.
Voilà, une mortelle, un immortel. Donc pour l'instant, nous sommes pas trop mal. Et qu'est-ce qu'on pourrait proposer à nos auditeurs? Alors bien sûr, c'est difficile à la radio de proposer des images, mais quand même, on va leur donner des pistes. Vous m'aviez évoqué un relief de Pharsale qu'on trouve au Louvre aussi.
Oui, qui est très peu connu. Les gens passent devant sans même le regarder. Alors qui est une œuvre plutôt pré-classique, presque fin archaïque, début classique, je pense. Et moi, ce qui m'avait frappé, c'est ce face-à-face entre Perséphone et sa fille. Non, c'est pas ça. Attendez, je me mélange. Si c'est ça, je crois.
Si, je crois que c'est
il
ça.
Me semble que c'est ça. Hein. C'est
oui,
Perséphone.
Oui, oui.
C'est Déméter et sa fille Perséphone. Je ne sais pas pourquoi, je les inverse toujours.
Avez...
Oui, oui, non, mais ça m'arrive
mais
souvent.
Crois, ça m'avait pas choqué parce
oui,
que naturellement,
si.
Les remets.
Je
me
disais, il y a un truc qui cloche.
Oui.
En fait, c'est on les a identifiées comme telles parce qu'elles tiennent des fleurs, en fait. D'ailleurs, le surnom de ce relief, c'est l'exaltation de la fleur. Qui est quand même un sacré titre.
Oui, parce que je trouve que ça nous éloigne beaucoup de ce qu'on a sous les yeux.
Voilà, donc en fait, ce sont deux femmes grecques, donc habillées à la grecque et coiffées à la grecque. Donc elles sont conservées jusqu'au buste. Alors déjà, le drapé est assez erratique, donc c'est typique de cette période-là.
Ah oui, c'est épuré, totalement.
C'est très épuré, et ce qui était beau, c'était ce face-à-face entre mère et fille, qui est déjà très particulier, déjà, et qui n'est pas courant. Et moi, ce qui m'avait frappé, c'était la façon dont les mains s'entrecroisaient, et donc les fleurs s'entrecroisaient. Je trouvais ça particulièrement esthétique et délicat.
Alors, et aussi l'inclinaison de leur visage, la manière dont elles se regardent.
Alors, je ne sais pas ce qu'a voulu faire l'artiste et le commanditaire de l'artiste, hein, honnêtement, là, je ne pourrais pas vous dire. Mais moi, ce qui m'avait frappé, c'était vraiment la structuration des figures et cet échange de regards, cet échange entre les deux femmes et cet échange de fleurs que je trouvais particulier et qui n'était pas maniériste, contrairement à ce qu'on pourrait croire avec ma description, qui justement ne l'est pas. Il y a quelque chose de mystique dans cet échange, je trouve. Et c'est bien rendu, je trouve.
C'est à la fois gracieux et grave, quoi.
Oui, oui, tout à fait. Et c'est pour ça que j'attire l'attention des visiteurs sur ce relief qui n'est pas très grand. Je ne sais pas si j'ai noté. Il fait une cinquantaine de centimètres. Les gens passent devant sans même... Je ne sais même pas s'il est encore exposé, même. Parce que je vous parle de ça il y a longtemps. Mais en général, les gens ne le voient même pas, quoi. Parce qu'il est insignifiant en taille, en dimension par rapport aux autres.
Alors, nous allons marquer une pause musicale. Les auditeurs qui ont bien entendu écouter l'émission précédente avec Cécile Carrier du Musée de la Romanité, spécialiste de la sculpture, historienne de l'art et de l'archéologie. J'avais pas rappelé ses titres tout à l'heure, titre à rallonge, mais il est peut-être temps de le faire pour cette pause musicale. Les auditeurs seront peut-être surpris parce qu'ils se diront, c'est la même musique. Oui, j'ai encore dit que le monde est Stone, mais cette fois-ci, c'est Moran qui chante.
Je sais pas si c'est la terre qui tourne à l'envers, ou bien si c'est moi qui me fais du cinéma, qui me fais mon cinéma. Je le soleil.
Alors, Antiquissimo, deuxième partie de la deuxième émission consacrée à Cécile Carrier, non pas opérant dans le Musée de la Romanité, mais Cécile Carrier telle qu'en elle-même, c'est-à-dire une personne qui s'est formée à la sculpture, à l'analyse de cette culture. Et on va lâcher un mot très important. Non seulement elle s'est formée, mais elle l'a formée à quelque chose qu'on appelle aujourd'hui l'archéostylisme.
Ah oui, ça c'est un sujet... Alors, pendant ma thèse, j'ai rencontré un autre thésard Et sa spécialité, c'était l'étude du costume, et était spécialiste notamment de l'époque césarienne. Ce qui l'intéressait le plus, c'était le costume religieux, qui est extrêmement codifié et extrêmement complexe, et pour lequel on n'a pas forcément des images très faciles à décrypter. Donc c'était un sujet assez ardu. Et en fait, à l'époque, en France, c'était pas vraiment un sujet très connu. C'était surtout les Américains, les Allemands qui faisaient ce genre de reconstitution. Mais en France, ça passait pour du folklore. C'était pas très, très... Et lui, vraiment, on était à Aix, il a vraiment forcé les portes pour se faire accepter. Et donc c'est lui qui m'a formée à l'archéocinisme, parce qu'on s'est rendu compte que moi, avec mes statuts, je lui disais des choses qui l'aidaient, et lui, avec ses vêtements, il me disait des choses qui m'aidaient. Puis on était complémentaires, du coup on trouvait des solutions à nous deux. Et à un moment donné, il m'a dit, bon, je commence à fabriquer des vêtements, mais moi ce qui m'intéresserait, c'est de faire des démonstrations à mes professeurs, et puis à l'université, enfin lors de conférences universitaires, pour évidemment échanger avec les autres thésards qui étaient aussi intéressés par ce genre de sujet, et avec les autres professeurs. Et il me dit, bon, le problème, c'est que moi, je ne peux pas expliquer, parce que c'est très complexe hein, d'expliquer avec des diapositives qui passent, expliquer la couture, enfin tout ça, et être habillé soi-même, et s'habiller soi-même, ce n'est pas possible. Il m'a dit, je suis à la recherche de gens qui accepteraient de porter ces vêtements. Donc, il m'a embarqué dans cette histoire. Donc, et il me dit...
Et nous en avons des photos.
Oui, j'en ai des photos. Et donc, en fait, il me dit, on va faire donc une conférence. Alors, c'est dans l'ancienne bibliothèque de l'ancienne université, etc. Il me dit donc... et je lui dis, mais alors, comment on va faire? Parce qu'il faut, comme il y a plusieurs costumes, il va falloir se déshabiller. Les salles de bibliothèque, même les salles de cours, ne sont pas faites pour. Il dit, oui, mais je vais mettre un rideau pour nous cacher. Enfin, bon, bref. Parce qu'on se retrouvait en petite culotte hein, quand même. Hein, donc,
obligé.
Donc, on installe tout, c'était tout un pataquès, c'était la première fois qu'on faisait ça. Enfin bon, c'était une grosse organisation, puis les profs étaient un peu sur les charbons ardents, prêts à nous démolir, j'imagine, pour certains d'entre eux qui n'étaient pas d'accord avec le système. Bref, on fait tout ça, et puis le jour dit, il me dit, bon, j'ai un souci, bon, les vêtements sont prêts, toi tu es prête, moi aussi, le diaporama aussi. Le problème, c'est que je ne peux pas faire garder mon chien. Je dis, c'est pas vrai. Il me dit, je vais être obligée de l'amener avec nous, mais on le cachera dans le vestiaire. Comme il est mignon, ça ne devrait pas poser de problème. Puis ce chien me connaissait. Donc, je dis, bon, pas de problème. On le poupouille, tout ça, on le calme, parce qu'il voyait évidemment son maître ailleurs. Mais lui, caché derrière, ça ne lui plaisait pas trop. Bon, on arrive à bon an, mal an à faire ce qu'on avait à faire. Donc, mon ami Julien commence à présenter un premier vêtement, un deuxième vêtement. Alors, mes collègues qui étaient aussi costumés défilent, parce qu'on faisait vraiment un défilé. Puis lui, en fait, on arrivait habillés, et lui, nous déshabillait, enfin, jusqu'à un certain niveau, bien sûr, jusqu'à la tunique. On va dire, de dessous, pour expliquer aux gens. Vient mon tour, et moi j'étais en Artémis chasseresse, donc avec un vêtement plus court, le manteau enroulé autour des tailles, un personnage dynamique. Donc Julien m'avait dit, tu arrives façon dynamique, parce qu'on devait arriver en fonction de nos vêtements. Donc ma collègue qui était en grande dame romaine, elle est arrivée dans un pas pratiquement sénatorial, mais bon, moi, en Diane chasseresse, je suis arrivée en courant. J'arrive en courant, je monte sur le bureau, parce que le bureau servait de scène, et tout d'un coup, je vois mon ami, qui me regarde avec des yeux ronds comme des soucoupes. Tout le monde qui stupéfie, qui commence à rire ou pas à rire, enfin, je voyais un mouvement de foule, et puis je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Je me retourne, le chien m'avait suivi, parce qu'il m'a vu courir,
Diane,
il m'a suivi.
Bah, voilà. Accompagné des chiens.
Et le pire, c'est que le chien, c'était une race de chiens que l'on voit sur les statues de Diane. C'est ça qui est extraordinaire. Ouais. Ça, c'était pas voulu, mais bon, voilà, ça fait partie. Mais pour dire, l'archéocinisme, c'était vraiment un démarrage en trompette, parce que honnêtement, les gens ont compris que c'était pas du folklore, que c'était quelque chose de sérieux. Et au jour d'aujourd'hui, ça paraît évident. Là, on a bientôt, on a les Jeux romains chez nous, enfin, on a les journées romaines. Tout le monde s'habille, enfin, les reconstituteurs s'habillent très sérieusement.
Il y a des recherches
vous-même. Vous en faites d'ailleurs des vêtements, on fait ça très sérieusement. Ça devient normal d'étudier le vêtement et de comprendre à quoi il servait et comment il se portait. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était.
Et vous-même, dans le parcours de la dernière exposition,
oui, on a fait ce travail-là.
Vous avez pris ce fil conducteur du vêtement dans la statuaire et c'était vraiment extraordinaire. Et là aussi, on était. Puisque vous aviez eu la gentillesse de guider ce circuit, eh bien, on était entre la réalité du costume et la représentation artistique.
Et les questionnements, tous les questionnements de la recherche.
Alors, nous replongeons bien sûr dans la statuaire, parce que j'ai sous les yeux...
Mais la statuaire, l'Artémis chasseresse du Louvre est quand même une œuvre à voir.
Oui,
moi,
oui,
c'est
oui.
Une œuvre qui m'avait beaucoup marquée. Et la Diane de Gaby, qui n'est pas très loin... est aussi un chef-d'œuvre au niveau du mouvement du vêtement, puisqu'elle est en train de s'habiller. Elle est quand même magnifique. Elle porte un manteau qui est sublimissime. Son imaturne est extraordinaire. Ouais. Et les crevés du Keaton sont magnifiques. C'est une œuvre absolument emblématique.
Là, on est dans quelle période à peu près ?
Alors là, on est au classicisme. On est en plein classicisme et on a donc la forme naturaliste et le naturalisme dans la représentation du vêtement, du drapé.
Alors, nous n'aurons pas le temps de tout faire, mais il faut citer vos coups de cœur à nouveau.
Oui.
La Vénus de l'Esquilin.
Oui, qui est dite être Cléopâtre VII, hein, donc la Cléopâtre de César, hein, qui est un nu absolument fantastique.
Ah oui, j'allais dire c'est divin, mais trop banal de dire ça.
Quasi, et puis la coiffure de la personne, et puis il y a le nu, mais il y a aussi son attitude, à la fois la tête penchée, elle a une sorte de torsion aussi, qui est absolument... Enfin, il y a tout, un blanc, un carnat, qui est absolument incroyable.
Il y a le mouvement du corps, le mouvement du visage, c'est vrai que tout est...
C'est une œuvre emblématique du musée, il faut le dire.
Et c'est un marbre qui est...
Incroyable. Incroyable. On dirait qu'elle est faite
On dirait de la chair.
Oui, mais elle est presque ivoirine, je ne sais pas comment dire, elle est incroyable. Ouais.
Et alors, vous aviez cité aussi, on aura le temps juste de donner ces deux noms, mais de faire comme ça un pont entre le Louvre, dont nous avons beaucoup parlé, et Arles, près de chez nous, le Marcellus, famille d'Auguste.
Alors, on a une tête au musée d'Arles, antique, je ne sais pas le cartel exactement, malheureusement, c'est une tête qui est baptisée et débaptisée régulièrement. Donc, on en a fait un Octave, on en a fait un Marcellus, on en a fait un Caius César. Donc, je ne sais pas, à l'heure actuelle, le cartel...
Je crois que c'est toujours un Marcellus.
Marcellus, oui.
Et alors, dans les deux statues qu'on évoque, celle du Louvre, c'est un adulte, et celle d'Arles, c'est
un
poupon. En fait,
c'est un jeune homme qui a eu un début de barbula, donc il n'a pas encore rasé sa barbe encore.
Il n'est pas encore adolescent.
Là, c'est un adolescent. Et en fait, le marbre du Louvre le montre presque divinisé. Là, il est en Hermès Ludovisi. C'est un des chefs-d'œuvre du Louvre aussi, avec ce corps sublimissime, mais aussi le visage qui est très sévère d'ailleurs. Plus sévère que celui d'Arles,
trouve. Oui, c'est vrai.
Celui d'Arles est plus doux, plus pensif, je dirais, que celui du Louvre est assez. Enfin, il n'est pas aimable, on va dire. Il est magnifique. Le travail de chevelure, sur les deux, hein, d'ailleurs, aussi bien la tête d'Arles que la sculpture du loup, le travail sur la chevelure est à vraiment regarder en détail parce qu'il est magnifique.
Ben, j'espère que nos auditeurs vont écouter une fois, deux fois, trois fois l'émission, noter toutes les œuvres, aller regarder d'abord sur le net, puis après...
Surtout se faire plaisir.
Aller à Athènes, pourquoi pas, au Louvre, à Arles, et bien sûr dans notre magnifique musée de la Romanité. Merci beaucoup, à bientôt.
Merci à vous, au revoir.